Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Nous allons lire les versets 1 à 5. Apocalypse 14, les versets 1 à 5. Et donc au verset 1, nous lisons, je regardais, c'est toujours Jean qui parle, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Jusqu'à la lecture de la parole. Je ne sais pas si tout le monde ici a lu, si les enfants ont lu Le Voyage du Pèlerin. Premier mot sur la feuille. Si? Et on aime bien, et beaucoup de personnes aiment l'histoire que Bunyan raconte pour différentes raisons. D'abord, il est très fidèle à l'enseignement de la Bible quand il décrit les difficultés, les épreuves que le personnage que Bunyan a appelé chrétien connaît, doit traverser dans la vie. Mais on l'aime aussi pour sa description de sa vision de notre espérance et du ciel. En dépit de toutes les difficultés, de toutes les épreuves que chrétien doit rencontrer, à la fin, il remporte la victoire, il rentre dans la cité glorieuse auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et le livre de l'Apocalypse a été écrit pour transmettre exactement le même message. Ce message d'espérance, en particulier aux chrétiens du premier siècle, mais encore pour nous, bien sûr, aujourd'hui. Et on le réalise donc avec cette vision que l'on a au début du chapitre 14. Bien sûr, le lien, rappelez-vous, il est fait avec le chapitre 7. On a eu la description des 144 000, mais par contre, au chapitre 7, les 144 000 étaient au milieu du monde, au milieu de la persécution, au milieu des difficultés, des calamités. Ici, au chapitre 14, l'Église des rachetés est auprès du Seigneur Jésus-Christ glorifié après avoir combattu dans cette guerre sanglante, cette guerre contre le dragon au chapitre 12. Et contre les deux bêtes au chapitre 13, le tyran et le faux prophète. Est-ce donc merveilleux de commencer le chapitre 14 avec ces mots « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes » Comme dans le voyage du pèlerin, ce chapitre 14 assure aux croyants qui traversent ce monde et toutes ces difficultés, qui connaissent la persécution, ils leur assurent que par leur persévérance, ils vont atteindre le but et seront dans la gloire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la raison de notre confiance, ce n'est pas notre capacité à tuer des dragons ou à combattre les bêtes. Non, notre confiance, la raison de notre confiance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, deuxième mot sur la feuille, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est lui, celui qui se tient debout sur la montagne de Sion avec autorité, victorieux. Un commentateur dit ceci, l'agneau qui se tient majestueusement sur la montagne de Sion, comme le vainqueur de toutes les forces antichrétiennes dans le monde. Et c'est pourquoi les saints ne devraient pas perdre courage, parce qu'ils prennent part à la victoire de l'agneau. En Jean chapitre 10, au verset 28, le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré ceci en parlant de ses brebis qui entendent sa voix. Il dit « Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main ». Et cette vision est ici résumée de manière graphique dans cette description des 144 000 qui sont avec l'agneau se tenant sur la montagne de Sion. La dernière fois, comme j'ai dit, nous avons vu cette assemblée, elle était au milieu de dangers, de difficultés, de persécutions. C'était la grande tribulation de l'ère de l'Église, Apocalypse chapitre 7. Et nous avons vu le combat contre le dragon, contre les deux bêtes. Et du point de vue du monde, du point de vue de notre expérience, il semble impossible à l'Église de remporter la victoire. Comment est-ce que l'Évangile va continuer à avancer, à être annoncé? Comment est-ce qu'il peut avancer victorieusement dans ce monde? C'est déprimant quand on le regarde simplement avec les yeux humains. Mais quand on regarde cette vision, on voit que sur la montagne de Sion, les 144 000 sont là. Les 144 000 sont auprès du Seigneur Jésus et pas un seul n'est perdu. Jean ne voit pas 90%, c'est-à-dire 129 600. 90% en termes humains, c'est pas mal. Mais non, Jean ne voit pas les 129 600. Il ne voit pas non plus 143 999. Du point de vue humain, s'il en manque un sur 144 000, c'est pas grave. Non, la question n'est pas là. Jean voit les 144 000. La totalité, le nombre exact, troisième mot sur la feuille, le nombre exact de tous ceux qui commencent le voyage par la foi en Jésus-Christ arriveront en sécurité auprès de lui et dans sa présence. Ou si on prend les mots du psaume 23, tous ceux qui peuvent avec foi dire « Le Seigneur est mon berger » seront certains d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de leur jour. Et donc le premier point, l'identité de ces 144 000. Nous avons déjà dit que ces 144 000 représentent l'Église des rachetés, la totalité du peuple de Dieu, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et encore ceux à venir. Comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec cette approche. Certains vont dire que ce nombre décrit les martyrs, de l'Église primitive, ceux qui sont morts à cause de leur témoignage. Aujourd'hui, sans doute la majorité des évangéliques vont dire que ce nombre décrit plutôt des juifs ethniques qui seront convertis juste avant le retour de Christ. Ça, c'est une interprétation qu'on retrouve assez souvent d'aujourd'hui. Mais ce passage nous montre de manière claire que ce nombre, 144 000, décrit tous les croyants et que cela couvre à la fois la période de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Comme j'ai déjà dit, on verra plus tard dans la description de la Nouvelle Jérusalem que les murs et les portes sont les 12 tribus et les 12 apôtres, que 12 fois 12, 144 fois 1000, qui est le symbole de quelque chose de grand, représente la foule immense. Au chapitre 7, on avait vu que c'était une foule que personne ne pouvait compter, au chapitre 7, verset 9. Mais quelle est l'identité de ce peuple? Tout d'abord, ils sont la propriété de Dieu. Quatrième mot sur la feuille. Ils sont la propriété de Dieu. Verset 1. Jean va identifier ces 144 000 avec ceux qui avaient le nom de Jésus et le nom de son Père écrit sur leur front. Au chapitre précédent, rappelez-vous, nous avons vu que tous ceux qui sont dans le monde ont reçu la marque de la bête. Et nous avons vu que cela représente l'acceptation, l'adoption du système antichrétien, du système païen de ce monde, à la fois dans notre pensée et dans nos actions. Le nombre est mis sur la main et sur le front. Et ils ont souligné que ce n'était pas par accident, c'est véritablement le signe de la rébellion contre Dieu. Et il y a bien sûr une exception à cela. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui, dont le nom est inscrit sur le livre de la vie depuis la fondation du monde, eux n'ont pas le symbole, le nombre de la bête, mais au contraire ont le nombre du Seigneur Jésus et de l'agneau et du Père inscrit sur leur front. Et dans la parole de Dieu, toute la parole, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse, il est clair qu'il n'y a que deux types de personnes dans le monde. Ceux qui sont marqués par la bête, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, et ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, ceux qui lui appartiennent, qui ont été marqués, qui ont été élus et qui vont être réconciliés avec lui par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a que deux catégories de personnes dans ce monde. Et ces 144 000 donc décrivent ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Cela décrit tous les croyants de tous les temps. Ceux du passé, du présent et ceux qui viennent, ceux qui sont encore à venir. Il n'y a que deux catégories de personnes, les 144 000 et les autres. Le nombre, dit un commentateur, le nombre de 144 000 décrit la plénitude du véritable peuple de Dieu, en contraste avec le 666 marqué sur le front de ceux qui suivent la bête, ce qui décrit leur incomplétude en manquant d'atteindre le dessein de Dieu pour l'homme. Aujourd'hui, si on s'assoit avec un non-chrétien ou si on met un non-chrétien à côté d'un chrétien, on ne va pas voir de marque sur leur front. On ne va pas pouvoir les distinguer de cette manière-là. L'Apocalypse, et n'arrêtons pas de le souligner, parle avec des symboles. Il parle des réalités spirituelles qui correspondent à la foi et à l'incrédulité. Ceux qui sont marqués, qui appartiennent à Dieu, expriment cela par leur foi en Christ. Les autres expriment leur appartenance à ce monde par leur incrédulité. Et dire donc que le nom de Dieu et le nom de l'agneau est inscrit sur le front de quelqu'un, c'est une manière figurée de dire que cette personne appartient à Dieu, que Dieu a réclamé cette personne, que cette personne est protégée en sa présence. Et c'est un grand encouragement. Si nous appartenons à Christ, par la foi, nous appartenons à Dieu et nous serons avec lui pour l'éternité. Et ce passage nous renvoie aussi à un passage dans l'Ancien Testament. Nous voyons une autre image que Dieu utilise en Ésaïe 49, verset 16, où là, Dieu dit ceci, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Je t'ai gravé sur mes mains. Quelque chose de remarquable. Et la raison pour laquelle nous pouvons donc parler de la sécurité éternelle pour ceux qui sont en Christ, c'est à cause de cette détermination souveraine de Dieu de réclamer, de protéger ce peuple parce qu'il l'a choisi depuis toujours pour lui-même. Ce peuple lui appartient. Ce sont les 144 000. Ils sont à lui. Ils sont sa propriété. La deuxième chose que l'on peut voir au sujet de ces 144 000, c'est qu'ils ont fait allégeance. Cinquième mot sur la feuille, ils ont fait allégeance avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils se soumettent et promettent fidélité à Dieu. Le sceau est un symbole d'appartenance, c'est aussi un symbole d'allégeance, de soumission, de fidélité à ceux qui portent ce sceau. Ce sceau montre que Dieu est le propriétaire, qu'il est celui qui les protège, mais il décrit aussi l'allégeance de celui qui porte le sceau. Et donc les 144 000 sont ceux qui ont fait ce serment d'allégeance, de soumission, de fidélité à Dieu par la foi en Jésus-Christ, en contraste bien entendu à ceux qui suivent ce monde, qui sont sous la domination de la bête et de ce monde, comme nous avons vu. Et cette vision montre ce qui détermine ce que nous sommes réellement. La chose la plus importante en ce qui nous concerne et de nous savoir où nous nous tenons vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes venus à lui par la foi? Est-ce que nous sommes soumis à lui? Ou est-ce que nous sommes toujours rebelles dans notre incrédulité? Si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus faire allégeance à ce monde. Nous ne pouvons plus suivre ce monde. Nous ne pouvons plus être loyaux à ce monde parce que nous en avons été délivrés. Nous appartenons à quelqu'un d'autre. Oui, nous vivons dans ce monde. Nous prenons plaisir dans ce monde par les choses que nous pouvons voir, que nous pouvons posséder. Nous pouvons faire le bien dans ce monde. Mais le monde n'est plus notre demeure. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne sommes plus citoyens de ce monde. Nous sommes citoyens des cieux. Et donc, nous ne sommes plus soumis à ce monde. Nous aurons peut-être, sans doute, à défier ce monde à cause de notre foi. Et à cause de cela, nous allons sans doute perdre, comme les croyants de ce monde ont perdu leur possession. Mais notre destinée n'est pas dans ce monde. Notre citoyenneté n'est plus de ce monde. Notre allégeance est avec Dieu et avec Christ. Notre destinée est de ciel. Nous ne sommes plus esclaves à ce monde, ni aux princes de ce monde. Troisième chose concernant ce peuple, ces 144 000, ce sont, sixième mot sur la feuille, les rachetés de ce monde, verset 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant l'agneau, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ils ont racheté, ces 144 000 sont les rachetés de la terre. L'agneau ne se tient pas sur la montagne de Sion avec une élite spirituelle. Non, ceux qui sont auprès du Seigneur Jésus sont ceux qui ont été rachetés du péché. Ils ont été sortis du monde par le sang de l'agneau, par la foi en Christ. Notre victoire avec le Seigneur Jésus-Christ n'est pas garantie par notre performance spirituelle, par la quantité ou la qualité de nos dons spirituels, par notre position dans l'Église ou dans le monde. Non, notre position privilégiée avec Christ, notre valeur à ses yeux, notre participation dans sa victoire repose dans le sang qu'il a versé pour nos péchés et dans la victoire que lui a remportée sur la croix. Tous les chrétiens ont cette glorieuse identité. Ils sont les rachetés. Une rançon a été payée. Un prix a été payé. Ils ont été délivrés par le sang précieux de l'agneau. Comme le rappelle Pierre dans sa première lettre, 1 Pierre 1, verset 19. Ils sont les rachetés. Mais la quatrième chose dont il est dit au sujet de ces 144 000, ce sont les prémices, septième mot sur la feuille, les prémices pour Dieu. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau, verset 4. Certains affirment que cette déclaration montre que les 144 000 ne peuvent pas décrire la totalité des croyants, mais qu'il s'agit seulement de ceux qui sont déjà au ciel à l'époque où Jean écrivait, ou alors que ce sont les martyrs qui ont un statut spécial. Et la raison derrière cet argument, c'est que dans l'Ancien Testament, il est vrai, les prémices étaient la première portion des récoltes que l'on présentait, que l'on dédiait à l'Éternel comme un symbole de toute la récolte. Et donc ces personnes disent que les prémices ici, les 144 000 qui sont les prémices, montrent qu'il ne s'agit pas de toute l'Église, mais d'une première portion de l'Église, d'un acompte, et que d'autres vont suivre. Mais si l'Ancien Testament utilise le terme de prémices dans ce sens-là, la Bible utilise aussi le terme de prémices dans un sens plus global qui englobe tous ceux qui appartiennent à Christ. Tous ceux qui appartiennent à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Jacques 1, 18, par exemple, dit ceci: « Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Dieu nous a engendrés par sa parole de la, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures, Jacques 1, 18. C'est-à-dire que nous soyons les, cette portion de l'humanité qui est mise à part, qui est réclamée par Dieu, parce qu'elle lui appartient. Jérémie 2, verset 3, décrit Israël comme les prémices de son revenu. Les 144 000, donc, sont les rachetés qui portent le nom de Dieu, qui lui appartiennent, qui s'offrent à lui pour sa gloire, qui ont fait allégeance avec lui. Ils représentent la totalité du peuple de Dieu. Ils sont les prémices, cette partie de l'humanité qui est réservée pour Dieu, par opposition à tout le reste de l'humanité qui est pollué par l'idolâtrie de ce monde. On a d'autres images qui parlent de la fin de l'histoire comme étant le temps de la récolte et que le bon grain est mis de côté et que le mauvais grain est jeté et détruit. Et voilà donc la description des 144 000. Et la question est comment faire partie de ces 144 000 et le message de la Bible est clair, par la foi en Jésus-Christ. Huitième mot sur la feuille, par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, par exemple, à la fin de son évangile, en Jean 20, verset 31, a écrit ceci pour expliquer pourquoi il a écrit un livre aussi long, aussi volumineux. Il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Comment faire partie de ces 144 000 en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Les 144 000, donc, sont la totalité du peuple de Dieu. C'est une représentation symbolique de ce peuple. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que l'on fait partie de ce nombre. Deuxième point, la localisation des 144 000. Le verset 1 nous dit que ce peuple se tient sur la montagne de Sion avec l'agneau. Mais revenons d'abord au chapitre 12, parce que parfois on peut louper un détail. À la fin du chapitre 12, Jean parlait du dragon, parlait de Satan, et comment Satan allait mobiliser ses forces. Il va appeler la bête hors de la mer, et ensuite la bête hors de la terre. Et le dernier verset du chapitre 12, verset 18, dit ceci. Et le dragon se tint sur le sable de la mer. Et il appelle, au début du chapitre 13, il appelle la bête hors de l'abîme. Mais quelqu'un qui connaît sa Bible va se dire, mais j'ai déjà entendu cette expression, se tenir sur le sable. Et cette expression, bien sûr, elle vient du sermon sur la montagne, où le Seigneur Jésus-Christ parle de deux hommes qui ont bâti leur maison. Et il dit que c'est l'insensé, le fou, qui a bâti sa maison sur le sable. Et le plus grand fou est Satan lui-même. Il se tient sur le sable pour bâtir sa maison. Par opposition, le plus grand sage est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas seulement dit que le sage doit bâtir sa maison sur le roc, mais où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ se tient ? Dans cette vision, il se tient sur le rocher de la montagne de Sion. Cela veut dire que son royaume, sa victoire vont durer pour toujours. Neuvième mot sur la feuille. Sa victoire, son royaume vont durer pour toujours. Alors bien sûr, comme partout dans l'Apocalypse, il y a un débat. Il y a un débat chez les experts ou ceux qui pensent l'être concernant la montagne de Sion. Est-ce qu'il est question ici de la montagne de Sion sur terre ou dans le ciel? La majorité des évidences que l'on a nous pousse à dire que Jean décrit le ciel. La dernière fois que Jean nous a décrit le Seigneur Jésus-Christ, il nous l'a décrit au ciel et nous n'avons pas encore vu la description de son retour. Nous avons fait allusion à son retour, mais nous ne l'avons pas encore décrit son retour. Et puis Jean décrit ensuite au verset 3 Il parle de ceux qui il parle des quatre êtres vivants et des vieillards. Et nous avons déjà vu que ces personnes entourent le trône du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Mais l'accent ici n'est pas tellement sur un lieu géographique. Jean va y revenir plus tard. Ce n'est pas tellement le fait de savoir si Jean décrit le ciel ou la terre, mais Jean ici parle plutôt de quelque chose de chronologique. Ce qu'il souligne, c'est qu'il voit la fin de l'histoire. Dixième mot sur la feuille. Et ce qu'il voit à la fin de l'histoire, c'est Jésus qui se tient debout sur la montagne de Sion, victorieux, et avec lui les 144 000. Le Seigneur Jésus-Christ a accompli le salut. La rédemption est totale. Son peuple en entier est avec lui. Quand par exemple le psalmiste dit au psaume 2, verset 6, Dieu dit ceci, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Cette déclaration ne se rapporte pas à la Jérusalem terrestre. Il y a une montagne de Sion où Salomon a bâti le palais. Non, mais Dieu veut diriger les regards vers la cité céleste, là où il habite, là où il a établi son roi, son Messie, son roi, son propre fils comme roi, et là où son peuple est en sécurité. Et en voyant la foule, en voyant les 144 000, cette église sur la montagne de Sion avec le Seigneur Jésus-Christ, Jean veut que nous regardions à la fin de l'histoire et voir que là, notre victoire est établie. Elle est sécurisée parce que nous sommes vainqueurs avec Christ. Ne perdons pas de vue que Jean écrit à des églises qui sont en Asie, ces églises au 1er siècle qui ont déjà commencé à connaître la persécution, qui vont en connaître encore plus. L'empereur Domitien était sur le point d'exiger le culte de sa personne, l'idolâtrie. Les empereurs qui vont suivre vont amener une persécution plus grande. Quand on lit l'histoire, on voit qu'effectivement, dans les premiers siècles, il y a eu cette persécution, il y a eu cette souffrance. Et que dit Jean ? Jean nous dit ce que nous avons besoin d'entendre. Ne soyez pas omnubilés par ce qui se passe. Et on pourrait se dire ça à nous aujourd'hui. Ne soyez pas omnubilés par ce qui se passe aujourd'hui. Ne vous définissez pas ou n'essayez pas de comprendre tout ce que se passe dans notre vie en regardant à notre propre faiblesse, en regardant au combat que nous menons contre un ennemi qui est fort. Non, Jean nous dit que notre point de référence devrait être la fin. La localisation de notre espérance, c'est cette fin de l'histoire où Christ se tient victorieux sur la montagne de Sion. Et au lieu d'être découragé, en regardant nos faibles ressources, en regardant nos chutes, notre faible foi, en regardant les forces qui semblent être immenses, qui sont assemblées contre nous. Regardons plutôt à la fin de l'histoire, regardons à Christ, regardons-le, voyons-le victorieux, et toute l'Église avec lui. Et à partir de là, regardons l'histoire présente, et prenons courage. Et dans ce que nous passons, dans ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons voir que Dieu est à l'œuvre, qu'il nous fortifie même par les épreuves, qu'il nous révèle toujours plus de sa grâce, et qu'un jour il nous fera révéler sa victoire de manière parfaite. Il nous fera traverser ce fleuve, cette épreuve, comme il a fait traverser le peuple d'Israël, il l'a fait traverser par la mer Rouge pour entrer dans le peuple de la promesse. Nous trouvons notre courage dans les épreuves présentes quand on regarde non pas à nous-mêmes, mais quand on regarde à cette montagne de Sion et que l'on voit l'agneau debout, victorieux, 11e mot sur la feuille, et avec lui les 144 000. Aucune brebis ne sera oubliée. Toute l'Église sera dans la gloire. Nous avons vu l'identité des 144 000, nous avons vu leur localisation. Mais ceux qui portent le nom de Dieu et de l'agneau sur leur front, qui jouissent de sa protection, partagent aussi ces attributs. Et donc, nous allons voir les caractères, troisièmement, le caractère de ces 144 000. Nous lui appartenons et nous avons, nous sommes, Dieu est à l'œuvre en nous et il nous fait ressembler de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et cette ressemblance à Christ est notre ressource, est une ressource dans notre combat spirituel. Tout d'abord, il nous dit que ces 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés, deuxième mot sur la feuille, ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, en lisant ce verset, beaucoup de lecteurs et beaucoup de commentateurs sont restés perplexes. Qu'est-ce que j'en veux dire? Alors pour certains partent de là et disent que voilà, les 144 000 doivent donc être une élite spirituelle. Ils seraient arrivés à cette position élitiste, ou d'élite, pardon, par le célibat, par l'abstinence. Et c'est ce qui amène à penser, certains à imaginer qu'il y a un statut spécial dans le célibat. Il parle d'une élite spirituelle qui serait composée de personnes vierges. C'est certain. D'autres interprètent ce verset de travers parce qu'ils partent d'une position féministe. Ils entendent ce verset qui parle de se souiller avec des femmes et ils disent que voilà, la Bible est contre la femme. Parce que dès que la Bible parle de femme, elle parle de souillure. Et d'autres vont prendre ce verset pour dire que la Bible est contre toute activité sexuelle. Ils disent que l'activité sexuelle est quelque chose qui souille, c'est quelque chose de mal et donc il faut rester vierge. Et donc toutes les possibilités, toutes les interprétations possibles. Mais bien sûr, ces interprétations-là sont fausses. La Bible enseigne que l'intimité sexuelle entre un mari et une femme est un don de Dieu. C'est un don qui est bon, un don qui est pour le mariage, pour l'union, pour unir un homme et une femme dans les liens du mariage. La pureté sexuelle n'est pas simplement l'abstinence en dehors du mariage, mais c'est aussi la fidélité dans le lien, dans le mariage. Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. La Bible n'est pas contre le mariage, bien entendu. Ce n'est pas l'activité sexuelle dans le mariage qui est quelque chose qui souille. Non, c'est l'adultère qui souille, selon la Bible. Paul rappelle, par exemple, aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, verset 5, que certains apôtres étaient mariés, qu'ils voyageaient avec leurs femmes. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas, Pierre? Et Paul exalte tellement le mariage et l'union au sein du mariage qu'il le décrit comme une illustration de l'union entre Christ et son Église. Relisez le passage d'Éphésiens 5. Une illustration de l'amour entre Christ et l'Église. Paul souligne donc que l'union sexuelle est essentielle et quelque chose de bon dans le mariage. La Bible n'est pas contre les relations sexuelles. Non, c'est le don de Dieu que l'on doit accepter et dont on peut jouir de manière responsable au sein du mariage. Et pour ce qui concerne la position féministe, la Bible n'abaisse pas la femme, au contraire, elle l'élève. Là, je vous renvoie à ce livre, Le dessein de Dieu pour la femme, publié chez Europresse. La Bible va souligner les contributions des femmes pour le royaume de Dieu, à différents niveaux, que ce soit en tant qu'épouse, en tant que mère, ou dans d'autres capacités. Elle contribue à la vie de l'Église. Alors, que signifie alors ce verset ? Comment ne pas tomber dans ces erreurs d'interprétation? Et la réponse à cette question est la réponse qu'on a déjà donnée à ce genre de questions. Cette déclaration doit être prise de manière symbolique. La bonne interprétation, quelque chose qui devrait devenir familier maintenant pour nous, c'est de venir à ce verset, de le comprendre de manière symbolique. Ce dont il est question ici, c'est la pureté. 13e mot sur la feuille. C'est la pureté. Un commentateur dit ici, la pureté dont il est question est celle de la fidélité spirituelle. Et un autre commentateur dit, cela veut dire que les personnes dont on parle ont évité l'adultère avec le système païen de ce monde. Combien de fois dans l'Ancien Testament l'idolâtrie est appelée adultère? L'idolâtrie est appelée adultère et ces personnes ont vécu selon leur identité en tant que fiancés de Christ. Ils sont fiancés de Christ et ils le savent et ils vivent en recherchant la fidélité, la pureté, pardon, la fidélité spirituelle. Et on peut pas séparer une fidélité spirituelle avec une fidélité, une pureté morale, une pureté sexuelle. Les deux vont ensemble. L'apôtre Paul et les autres apôtres, l'apôtre Jean, et les autres apôtres vivaient dans le monde romain. La débauche sexuelle était sans doute aussi avancée que la débauche sexuelle d'aujourd'hui. On dit aujourd'hui qu'on abandonne l'héritage chrétien. Au premier siècle, il n'y avait pas cet héritage. Mais en lisant, en préparant différents messages, j'étais assez surpris, choqué de lire ce qu'on a découvert à Pompéi, des fresques et des graffitis. Ça n'a rien à envier à la littérature que l'on peut trouver aujourd'hui. Et tout le Nouveau Testament s'adresse à cette question de pureté, de pureté sexuelle, de pureté morale. Beaucoup de femmes au premier siècle et beaucoup de femmes croyantes ont sans doute été des prostituées. Beaucoup d'hommes avaient plusieurs femmes et ils les utilisaient comme des prostituées. Et ils sont appelés à ne plus vivre de cette manière-là, à ne plus vivre comme le monde. Rappelez-vous ce que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 9 et 10. Il dit « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Mais il ne s'arrête pas là. Et il dit qu'on peut regagner sa virginité par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui lave, qui purifie de tout péché. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Apocalypse 4, 14 parle de la pureté du peuple de Dieu, de la pureté spirituelle de l'Église, comme d'un serviteur de Christ qui est chaste, qui est vierge. Si on avance un peu plus loin dans ce chapitre, on verra que l'apôtre Jean parle de la grande prostituée, Babylone. On a eu le dragon, on a eu la première bête, le tyran, on a eu la deuxième bête, le faux prophète. Et on verra l'autre allié de Satan, cette grande prostituée, Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Verset 8. Et l'accent, donc, là où Jean veut mettre l'accent, c'est que les 144 000, ce peuple de Dieu, est un peuple qui est pur. C'est la pureté morale, la pureté spirituelle. Afin que ce peuple soit en contraste avec ceux qui sont pollués par l'idolâtrie de ce monde, par l'adultère du système de ce monde, parce qu'ils ont accepté toutes les pratiques perverses de ce monde. Ce groupe de personnes rachetées est d'abord marqué par la pureté. Ils ont été lavés par le sang de l'agneau. La deuxième chose qui caractérise ce peuple, c'est l'obéissance. 14e mot sur la feuille. C'est le deuxième trait de caractère. Ils sont obéissants, verset 4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Partout où Christ va, partout où il nous demande d'aller, nous y allons. Ce qu'il nous appelle à faire, nous le faisons. Sa volonté devient la nôtre, son chemin devient le nôtre, même si c'est un chemin qui est étroit, mais c'est un chemin qui mène à la vie. Suivre Christ implique le croire, croire son enseignement, se soumettre à ses commandements, promouvoir son évangile avec zèle. Christ s'est sacrifié pour nous, un sacrifice d'expiation. Nous, nous offrons un sacrifice de reconnaissance en offrant nos vies comme un sacrifice vivant. Nous le suivons comme lui a suivi le Père et s'est donné pour nous. L'obéissance. Troisième caractéristique de ce peuple, c'est la vérité. 15e mot sur la feuille. Verset 5. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont purs, ils sont obéissants. Mais ce sont aussi des personnes qui recherchent la vérité dans tout ce qu'ils disent et dans tout ce qu'ils font. Ils sont sincères. C'est ce qui a démarqué les chrétiens du premier siècle, de leurs voisins païens. C'est ce qui doit nous démarquer aussi aujourd'hui. On vit dans un temps de débauche, on vit dans un temps aussi de relativisme. Les gens vont dire qu'il n'y a pas de vérité, ou chacun sa vérité. Le peuple doit dire non. Il y a la pureté, il y a aussi la vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être des personnes qui parlent la vérité, qui annoncent cette vérité. En Romains 1, Paul fait cette déclaration de ce qui se passe dans ce monde. Il dit ceci en Romains 1, verset 25, « Les hommes ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et nous, le peuple de Dieu, les 144 000, nous sommes opposés à cela. Nous rejetons le mensonge, nous adoptons la vérité, nous proclamons la vérité, nous vivons la vérité. Et si besoin, nous nous sacrifions pour la vérité. C'est ce que notre génération a besoin. Un commentateur dit ceci, ce n'est pas seulement d'une sincérité générale, mais aussi d'une intégrité des saints dans leur témoignage, même sous pression, même quand le faux prophète les persécute, en essayant de compromettre leur foi. Nous vivons et nous voulons, nous recherchons à vivre dans la vérité et nous voulons proclamer cette grande vérité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 5 résume le caractère de ce peuple qui ressemble à Christ en disant que l'Église des rachetés est irréprochable. Bien sûr, sur terre, nous sommes encore faibles et nous chutons, mais c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ en nous. C'est Christ qui vit en nous, qui fait que nous sommes irréprochables, que nous sommes les serviteurs de Dieu. Comment ma vie peut-elle faire une différence dans ce monde? En poursuivant par la grâce de Dieu une vie de pureté, une vie d'obéissance, une vie de vérité. C'est ce que ce monde, cette génération a besoin d'entendre et de voir, des vies qui ont été transformées par le Seigneur Jésus-Christ. Et le quatrième et dernier point, Jean nous parle de l'activité des 144 000. Il nous a parlé de l'identité, de la localisation, de leur caractère. Maintenant, il parle de l'activité. Nous voyons ce peuple qui adore. 17e mot sur la feuille. Ils adorent l'agneau et Dieu le Père par des chants. Verset 3. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Au verset 2, Jean dit qu'il entendit une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Quelle est cette voix? On découvre que c'est la voix de l'Église. C'est la voix des rachetés. Le verset 3 nous dit que ce sont seuls les 144 000 qui peuvent apprendre ce cantique nouveau. Et c'est la voix de toute cette Église réunie. On a parfois eu ce privilège d'être au milieu d'une grande assemblée, de participer à des conférences. Et quand toute l'assemblée se met à chanter, on se dit, voilà ça, on a l'impression que voilà, ça va soulever le toit, ça va déchirer, comme on dit. Hein, ça va être, c'est énorme, mais on a les cheveux qui se dressent sur les bras. Mais c'est rien comparé à ce qui attend le peuple de Dieu dans la gloire. Ce sera comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Mais le volume n'est pas seulement la seule vertu, il y a aussi la passion qui vient du cœur. Et Jean compare ce qu'il entend au son des harpistes qui jouent de leur harpe au verset 2. Et un commentateur dit ceci en parlant du cantique, il dit « Mais sa puissance, sa majesté, sa constance ne l'empêchent pas d'être en même temps le chant le plus doux et le plus tendre qu'on ait jamais entendu. » Et un prédicateur, Jonathan Edwards, a prêché un texte sur ce passage, un message sur ce passage à la fin de ces deux volumes de ses œuvres. Et dans ce message, il explique, il donne les raisons pour lesquelles l'Église glorifiée sera capable d'adorer Dieu avec tant de ferveur. Il dit tout d'abord, dans la gloire, les croyants vont voir Dieu. 18e mot sur la feuille. Ils vont voir Dieu, ils verront la gloire de Dieu. Et ceux qui le voient ne peuvent que le louer. Une vision si glorieuse va réveiller toutes les capacités de l'âme, toutes les forces de l'âme. Elle va les amener et les appeler de manière irrésistible à se lancer dans des actes de louange. Ils verront la face de Dieu et ne pourront que le louer. Ils vont voir Dieu. La deuxième chose que dit Edwards, c'est que les rachetés ont été rendus parfaits en humilité. 19e mot sur la feuille. Et il souligne combien souvent notre orgueil nous empêche de réellement louer Dieu. On se prépare à louer Dieu et puis on réalise qu'on est en train de penser à soi-même. Ah, finalement, je chante meilleur que mieux que mon voisin. Ou je loue Dieu mieux qu'un tel. Et Edward souligne que seule l'humilité nous permet de dire de tout notre cœur, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Psaume 115, verset 1. Ils seront rendus parfaits en humilité. Et ensuite, Edwards dit qu'à ce moment-là, notre amour pour Dieu, 20e mot sur la feuille, notre amour pour Dieu et pour le Seigneur Jésus-Christ sera parfait. Et il ne pourra que se déverser en louange. Le ciel résonnera de louange parce qu'il sera rempli d'un amour pour Dieu et pour l'agneau. Et le but d'Edwards à la fin, il dit que si l'adoration du peuple de Dieu ressemble à cela dans le ciel, notre adoration ici-bas devrait tendre vers cet objectif. Notre adoration ici-bas devrait tendre vers cet objectif. Comment est-ce que nous pouvons rendre à Dieu toute la gloire qu'il mérite? En apprenant à le connaître, en poursuivant notre apprentissage par de sa personne et de son œuvre, et nous le faisons par l'étude de sa parole. Et en réalisant combien grand il est, combien parfait il est, et l'œuvre parfaite qu'il a accomplie en Christ, nous serons davantage humiliés, et notre cœur s'exprimera, explosera davantage en louange et en adoration. Lui seul mérite toute notre adoration. Lui seul mérite notre louange. Nous ne sommes que des pécheurs sauvés par grâce. L'apôtre Jean dit que les rachetés qui sont sur la montagne de Sion chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Cela montre que notre adoration est dirigée vers Dieu et vers l'agneau. Elle n'est pas dirigée vers les personnes présentes, vers les visiteurs. Non, elle est dirigée vers l'agneau. Elle est dirigée vers Dieu lui-même. Et on chante un cantique nouveau, comme Wayne l'a souligné tout à l'heure. Ce n'est pas parce que nous avons découvert quelque chose de nouveau qui change du message de la Bible, non. Mais quand nous serons arrivés à notre destination dans la gloire, nous aurons eu tant d'expériences de la grâce de Dieu à notre égard et à l'égard de l'Église, que la qualité de ce message sera nouvelle. la qualité de ce message. Et donc, notre chant sera nouveau. C'est toujours le même message de la grâce de Dieu. Mais nous l'exprimerons et nous le vivrons d'une autre manière. Et comme Wayne l'a souligné, on trouve dans l'Ancien Testament plusieurs références à cette expression, un cantique nouveau, où on parle d'occasion, de délivrance, comment Dieu délivre son peuple et comment son peuple le glorifie pour cela. Et quand nous serons dans la gloire, nous chanterons ce cantique nouveau. Mais nous le chanterons à Dieu, mais nous louerons aussi l'agneau parce qu'il nous a rachetés par son sang. Et le fait que ce cantique célèbre Christ comme le Rédempteur, Jean souligne que seuls les 144 000 peuvent apprendre ce cantique. Parce que seuls ceux des 144 000 ont été rachetés par le sang de l'agneau. Ce cantique nouveau commence par ce goût amer de la conviction de péché. Et c'est là que le sang de Christ, 21e mot sur la feuille, le sang de Christ nous pousse dans la ferveur et la joie parce que nous réalisons que le sang de Christ nous lave de nos péchés. Il nous lave de manière parfaite. C'est le début de la vie chrétienne. C'est la réalisation que nous avons besoin de ce sang. Nous avons besoin de reconnaître notre péché, de crier à Dieu pour le pardon de nos péchés, que Christ nous lave de nos péchés. Et quand il nous lave de nos péchés, nous nous réjouissons de ce salut qui est parfait. Christ nous lave de tous nos péchés, parfaitement, entièrement. Seuls ceux qui ont connu cela, qui ont fait cette expérience, peuvent comprendre la puissance de ce cantique, peuvent chanter ce cantique, qu'ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Le monde ne sait pas, le monde ne comprend pas ce que cela veut dire être un chrétien aujourd'hui, un chrétien qui lutte, un chrétien qui est égaré, qui est éprouvé, pardon, un chrétien qui se sent faible, qui a l'impression d'échouer. Et le chrétien regarde à la croix. Il voit que c'est là que le sang a coulé, le sang de Christ a coulé pour lui. Et puis il regarde sur la montagne de Sion à la fin de l'histoire. Et il voit que toute l'Église est avec Christ. Et Christ se tient victorieux. Et il chante. Et chante ce chant de gloire. C'est la victoire de Christ. C'est notre espérance. C'est un cantique qui réchauffe nos cœurs. Seuls les rachetés peuvent chanter ce cantique. Comment appliquer ce passage? Nous avons vu l'identité des 144 000. Nous avons vu leur localisation, leur caractère et leur activité. En pensant à l'application de ce passage, nous allons remonter dans l'Ancien Testament jusqu'à un événement dans la vie d'un roi, du roi Josaphat. Un passage que nous pouvons retrouver dans 2 Chroniques, chapitre 20. Je vous invite à le lire chez vous à la maison. Josaphat, un roi qui craignait Dieu. Mais un jour, un messager vient lui dire, « Voilà, j'ai de mauvaises nouvelles, il y a l'armée des Ammonites, des Moabites, des Maonites qui viennent et qui viennent faire la guerre. » Que fait Josaphat? Josaphat ne désespère pas. Il rassemble tous les habitants de Jérusalem et il se tient devant le nouveau parvis du temple. Et il dit ceci au verset 12, « Éternel, nous ne savons que faire. » Mais nos yeux sont sur toi. Et Dieu lui dit, oui, j'ai entendu ta prière, et vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Et Dieu dit à Josaphat de rassembler l'armée, et le lendemain matin, de sortir de Jérusalem, de faire face à cette armée immense, et d'entrer dans le combat par la foi. Et quand Josaphat le fait le lendemain matin, devant l'armée, il va mettre les Lévites, ceux qui, dans le temple, sont responsables du chant de l'adoration. Et cette petite armée sort de Jérusalem avec les Lévites devant eux. Et les Lévites chantent les paroles du psaume 118, verset 1. Et ils disent « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Ça, c'est 2 Chroniques 20, verset 21. Et en 2 Chroniques 20, verset 22, nous lisons ce qui se passe. « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. » Alors cela ne veut pas dire que notre seule réponse au combat spirituel, c'est de chanter. Mais cela veut dire que nous devons nous détourner notre regard de l'opposition qui est en face de nous. Détourner notre regard même de nous-mêmes et de regarder vers la montagne de Sion pour voir que c'est l'agneau, un deuxième mot sur la feuille, que c'est l'agneau qui est debout, c'est l'agneau qui est victorieux et que l'Église est avec lui. Et alors là, nous sommes remplis de force, remplis d'espérance. Avec cette vision, nous ne ferons pas ce qui est trop souvent fait aujourd'hui, c'est-à-dire avoir peur de proclamer la parole de Dieu. Trop de lieux qui se disent évangéliques ne veulent pas proclamer la parole de Dieu parce qu'ils disent que ça va attirer des ennuis ou ça ne marche pas. Mais ces personnes ne voient pas Christ qui est debout, victorieux. Ils ne le voient pas se tenir debout, ayant remporté la victoire. Mais si nous le regardons ainsi, si nous nous appuyons sur ses promesses, avec l'aide de l'Esprit, et si nous proclamons sans détour ce merveilleux évangile du Seigneur Jésus-Christ, nous ne considérons pas la prière comme une perte de temps, mais nous recherchons sa face, nous regardons à lui, et nous allons le louer pour sa délivrance, parce que sa délivrance est certaine. Et nos prières vont secouer cette terre, vont secouer la terre et le ciel. Quand nous nous réunissons pour adorer Dieu, ce n'est pas pour plaire au goût de ce monde, mais c'est pour adorer véritablement et selon sa parole, le seul vrai Dieu qui vit et l'agneau qui se tient sur la montagne de Sion. Et avec Christ qui est sur son trône, ou Christ qui se tient debout, victorieux, quand nous commençons à l'adorer, nous verrons sa victoire, cette victoire sécurisée par l'agneau. Et dès ici-bas, nous pourrons chanter, même au milieu de nos épreuves, même au milieu de nos difficultés, nous pourrons chanter ce cantique nouveau, 23e mot sur la feuille, ce cantique qui va se poursuivre dans l'éternité. Nous avons été lavé par le sang de l'agneau, racheté, que le prix a été payé et que la victoire lui appartient. Levons donc les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. Louons notre Dieu et louons l'agneau qui nous a lavé, qui nous a racheté et à qui nous appartenons. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs, qu'il nous aide à la comprendre et à la vivre pour sa gloire. Amen.